Paul de Kock, L'enfant de ma femme. Chapitre premier. Voyage, accident, aventure. Nous n'arriverons jamais ce soir à Strasbourg, Mulhern. Dis donc au postillon de fouetter ces maudits chevaux. Je lui ai déjà dit plus de 20 fois depuis 1 heure, mon colonel. Il m'a répondu qu'à moins de nous casser le cou à tous les trois, nous ne pouvions pas aller plus vite. Mais Henri ne sera plus à Strasbourg quand nous y arriverons. Alors, mon colonel, nous continuerons de courir après lui. Et peut-être ne l'attendons-nous pas assez à temps pour prévenir le malheur que je redoute. Si cela arrive, mon colonel, vous n'aurez rien à vous reprocher, car en vérité, depuis 6 semaines que nous ne faisons que courir jour et nuit de Framberg à Strasbourg, de Strasbourg à Paris et de Paris à Framberg, ma culotte s'est tellement attachée à mes fesses que je me verrai forcé, mon colonel, de montrer mon dernier à la première auberge où nous arrêterons. Mais si du moins le but de ce voyage était rempli. Oh, si quelques bonnes bouteilles de vin pouvaient dissiper l'engourdissement de mes membres. Mais rien, pas même un mauvais verre de piquette pour apaiser la soif qui me dévore. Mon colonel, il faut que ce soit vous pour que j'endure aussi patiemment un pareil supplice. Mais es-tu fâché de m'avoir suivi, Mulhern? Non, moi, mon colonel, mais j'irai avec vous au bout du monde, mais je voudrais au moins que cela ne fût point sans boire ni manger. D'ici là, la conversation fut interrompue par un choc épouvantable qui brisa les cieux de la chaise de poste. Bientôt, le colonel Framberg et son compagnon de voyage roulèrent tous deux dans le fossé qui bordait le chemin. Tout cela fut la faute du postillon, qui n'avait pas aperçu dans sa rapidité de course le fossé où tombèrent nos voyageurs. Pendant que le postillon s'occupait des chevaux, Mulhern courut relever son colonel. « Oh, 1 000 000 000 de cartouches! Seriez-vous blessé, mon colonel ?»« Oh, cela n'est rien, Mulhern. Il n'y a que la jambe gauche qui me fait un peu souffrir. » « Mais morbleu, vous avez une forte contusion. »« Ce ne sera rien, te dis-je. Tâchons de découvrir un endroit où nous puissions passer la nuit. »« Car je vois bien qu'il faut renoncer à l'espoir d'arriver aujourd'hui à Strasbourg. » Le postillon accourut dire à ces messieurs qu'il y avait une auberge à 50 pas de là. « Mais comment, maroufle, tu oses verser dans un fossé le colonel Framberg ?» dit Mulhern au postillon. Celui-ci s'excusa comme il put, et le reprit le chemin de l'auberge en soutenant le colonel sous les bras. Nos voyageurs n'avaient pas marché un demi-quart d'heure lorsqu'ils aperçurent une petite maison simple mais de bon goût. Un rez-de-chaussée, un premier étage et des greniers composaient toute son étendue. Des volets verts garantissaient les habitants de l'ardeur du soleil, et plusieurs chaînes de touffus en ombrageaient l'entrée. Tout enfin semblait annoncer que le maître de cette demeure, fatigué des plaisirs bruyants de la ville, s'était retiré dans cette solitude pour reposer ses sens dans le calme et la méditation. « Tu appelles cela une auberge ?» dit Mulhern au postillon. « Mais je crois, triple tonnerre, que tu veux faire promener mon colonel. »« Frappons toujours, » répondit le postillon. « Nous verrons bien mieux ce que c'est lorsque nous serons dedans. » Mulhern frappa à coups redoublés à la porte. Pas de réponse. On refrappe encore, toujours inutilement. Et pour comble de disgrâce, la nuit devenait noire, et la blessure du colonel Framberg, irrité par la fatigue, le faisait souffrir horriblement. « Mais que le diable s'en mêlerait, mon colonel? Vous ne pouvez pas coucher à la belle étoile, dans l'état où vous êtes, puisque les habitants de cette maison sont sourds. Il faut tâcher de nous passer d'eux. » En disant cela, Mulhern donna un violent coup de pied dans la croisée de rez-de-chaussée qui se trouvait la plus proche de la porte. Le volet, qui n'était pas en état de soutenir l'assaut, se brise et tombe à ses pieds. Il casse avec son sabre 2 carreaux et entre dans la maison sans faire attention aux ordres de son colonel, qui lui représente qu'on ne doit pas ainsi violer le droit des gens, et que si on l'apercevait, on le prendrait plutôt pour un voleur de grand chemin que pour un ancien maréchal des logis. Sans s'arrêter dans son expédition, Müller court à la porte d'entrée, trouve une grosse clé pendue au mur, la prend, ouvre sans difficulté et introduit le colonel Fromberg dans la maison abandonnée. Ben, puisque nous sommes dedans, dit le colonel, tâchons au moins de nous conduire avec circonspection. C'est cela, mon colonel, donnez le bras à ce maladroit postillon qui cause de notre mésaventure, et je vais marcher devant vous afin de vous prévenir en cas d'accident. Nos voyageurs se mirent en marche à tâtons, car l'obscurité était si grande qu'on ne pouvait pas distinguer à côté de soi. Déjà, ils avaient parcouru plusieurs pièces sans rien découvrir, et Müller, impatienté, commençait à jurer entre ses dents lorsque quelque chose passa devant eux et s'enfuit légèrement à leur approche. Müller, intrigué, court sans s'arrêter après ce qui fuit devant lui, mais ses pieds s'embarrassent en rencontrant un tabouret. Il perd l'équilibre et tombe la tête dans un baquet plein d'eau. Furieux, il se relève, ouvre une porte, croit marcher de plein pied et roule du haut en bas d'un escalier en entraînant dans sa chute un malheureux chat, cause innocente de tout ce passage. Cependant, quoique très étourdi par sa descente rapide, Müller se relève et procède cette fois avec plus de prudence à l'examen du lieu où il est. La fraîcheur de l'endroit et diverses bouteilles qu'il rencontre sous sa main ne tardent pas à le convaincre qu'il est tombé dans la cave. Rassuré par cette découverte, il cherche l'escalier par où il est descendu si rapidement et veut remonter afin d'annoncer ses succès à son colonel. Mais pour la troisième fois, ses pieds s'embarrassent dans quelque chose et il tombe le visage sur le nez d'un individu qui dormait tranquillement et qui pousse un cri terrible en se sentant réveillé si brusquement. Chapitre 2. Les contes de Fromberg. Avant de tirer Müller de la surprise que lui a causée sa nouvelle rencontre, il est nécessaire d'apprendre au lecteur quel était le colonel Fromberg et de lui faire connaître le motif de son voyage. Le comte Hermann de Fromberg, père du colonel, descendait d'une ancienne famille d'Allemagne, de père en fils, et les Fromberg avaient passé leur jeunesse à servir leur patrie, et le comte Hermann, après avoir recueilli au champ d'honneur les lauriers de la gloire, s'était retiré dans le domaine de ses aïeux. Et là, auprès d'une épouse chérie, il attendait avec impatience que la naissance de l'enfant qu'elle portait dans son sein vint mettre le comble à sa félicité. Ce moment arriva, mais ce jour d'allégresse se changea en un jour de deuil et d'affliction. La comtesse perdit la vie en mettant au monde un fils. Le comte ne se consola jamais entièrement de cette perte. Mais, comme le temps adoucit les peines les plus cuisantes, il se rappela qu'il avait un fils et se livra avec ardeur aux soins de son éducation. Elle ressembla à celle de ses aïeux. Le jeune Fromberg apprit de bonne heure les exercices militaires. Son père vit avec joie ses heureuses dispositions et à l'âge de 15 ans, le jeune homme lui demanda la permission de partir pour l'armée. Le comte, quoique regrettant de se séparer de son fils, consentit à sa demande et le jeune Fromberg quitta le château de ses pères pour se rendre au champ d'honneur où, en très peu de temps, ses belles actions lui valurent le grade de colonel. Le comte Hermann était fier d'un tel fils et lorsque le colonel Fromberg venait passer ses quartiers d'hiver au château de son père, il était reçu avec tous les honneurs militaires, embelli encore par la tendresse paternelle. Et ce fut sur le champ de bataille que le colonel fit connaissance avec Müller. Ce brave hussard se faisait remarquer par son courage et de plus par la singularité de son humeur. Il avait toute la franchise et la rudesse d'un bon soldat. Toujours prêt à exposer sa vie pour la personne qu'il aimait, il aurait aussi fait le tour du monde pour punir celui dont il aurait reçu un affront. Il révérait son colonel comme son supérieur et l'aimait comme le plus brave de l'armée. À chaque bataille, Müller se trouvait à côté du colonel, combattait devant lui faisait souvent un rempart de son corps, et jamais il n'aurait pardonné à celui qui lui aurait enlevé le plaisir de mourir pour le sauver. Le colonel, de son côté, s'attachait de plus en plus à Müller. Bientôt ils devinrent inséparables, car le colonel, élevé au milieu des camps, ne connaissait nullement les distances que le rang et la fortune établissent dans le monde. Celui qu'il aimait, fût-il sans titre, sans richesse, n'en était pas moins estimable à ses yeux, s'il possédait les qualités qui lui faisaient rechercher son amitié. En un mot, le colonel était au-dessus de tous les préjugés, et même par sa conduite, il blessait souvent les convenances sociales. La suite de cette histoire en donnera des exemples fréquents. Le comte Hermann, devenant vieux, désirait ardemment voir son fils lui donner un héritier de son nom. Et à chaque visite que le colonel faisait au château, où depuis longtemps Müller ne l'accompagnait, le vieux comte lui renouvelait ses instances pour se marier. Pendant longtemps, le feu de la gloire occupant seul l'esprit du colonel, il refusa à son père cette satisfaction. Mais lorsqu'il eut atteint sa 30e année, cette humeur guerrière s'étant un peu refroidie, il consentit à se rendre à ses désirs. À une demi-lieue du château du comte Hermann se trouvaient les domaines du baron de Frobourg. Le baron, étant veuf, vivait retiré dans son château, occupé de l'éducation de sa fille unique. La petite Clémentine était l'idole de son père et l'objet de ses plus chères espérances. Le comte et le baron, se trouvant voisins, ne tardèrent pas à se lier intimement. Ils étaient alternativement l'un chez l'autre une partie du temps, passant les soirées d'hiver, l'un à s'entretenir des hauts faits et de la gloire dont son fils embellissait ses vieux jours, l'autre a détaillé les grâces enfantines de sa fille, son amour filial, sa sensibilité pour les malheureux, et l'espoir qu'il avait qu'en ayant un jour la beauté de sa mère, elle en aurait aussi les vertus. Cependant, le temps s'écoulait, le comte faisait part au baron du désir qu'il avait de voir son fils marié, le baron lui confiait les craintes qui l'agitaient, lorsqu'il songeait que s'il venait à mourir, il laisserait sa fille seule au monde, sans un ami pour la protéger, sans un époux pour la chérir. Il s'ensuivit de ces confidences qui devaient nécessairement arriver. Le comte et le baron formèrent le projet d'unir leurs enfants, et par ce moyen, ils resserraient l'amitié qui les unissait et mettaient fin aux inquiétudes qui troublaient sans cesse leur vieillesse. Ce fut à cette époque que le colonel se rendit au désir de son père. Alors celui-ci le conduisit au château du baron afin de lui faire voir la femme qu'il lui destinait. Le colonel, dans ses fréquents voyages au château, y avait déjà vu Clémentine. Mais quelle différence! Elle était enfant alors et le temps n'avait pas encore développé toutes ses grâces. Lorsque le comte la présenta à son fils comme sa future épouse, Clémentine venait d'avoir 18 ans. Elle était jolie, sans être belle, mais chacun de ses mouvements respirait la volupté. Ses grands yeux noirs exprimaient la plus tendre langueur, et sa bouche ne s'ouvrait que pour laisser entendre des accents enchanteurs qui portaient le trouble et l'émotion dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Le caractère de Clémentine ne démentait pas la douceur de ses regards. Elle était douée de toutes les qualités, mais elle portait la sensibilité jusqu'à l'excès. Cette passion, quand elle est outrée chez les femmes, est souvent la cause de leur malheur, et les entraîne quelquefois plus loin qu'elles ne voudraient. Le colonel éprouva, à la vue de Clémentine, ce charme secret que fait naître la présence d'une femme charmante, et il souhaita ardemment la nommer bientôt son épouse, non qu'il éprouva pour elle cette passion violente, capable de tout sacrifier pour la possession de l'objet aimé, mais le colonel Frobert, élevé dans les camps, ne connaissait nullement l'amour, et sa brusque franchise était plus propre à faire de lui un ami qu'un amant. Mais il était fier du choix de son père et satisfait de pouvoir concilier en même temps ses désirs et son devoir. Quant à Clémentine, lorsque le vieux baron lui apprit qu'elle devait considérer le colonel Frambert comme son futur époux, elle pâlit, se troubla et se jeta aux genoux de son père, le suppliant de ne point la forcer à le quitter. Le baron lui présenta qu'elle ne quitterait pas, qu'il habiterait toujours avec elle, que d'ailleurs il lui fallait un protecteur, un second père pour le remplacer lorsqu'il descendrait au tombeau, et qu'il ne pouvait trouver un homme plus digne de remplir tous ses devoirs que le fils du comte Hermann. Enfin, le baron fit entendre à sa fille qu'il avait mis dans ce mariage sa plus chère espérance et qu'elle attristerait ses vieux jours en refusant de lui obéir. Clémentine se tut, essaya de cacher ses larmes et promit à son père de se rendre à ses vœux. Cependant, elle obtint du baron un délai afin, dit-elle, d'avoir le temps de connaître son futur époux, et il fut décidé qu'on les marierait au bout de 3 mois. D'où pouvait provenir la peine de Clémentine en apprenant son prochain mariage? Si le colonel n'avait pas le ton doux et tendre que l'on désire dans un amant, au moins possédait-il d'excellentes qualités, et d'ailleurs, le plaisir d'obéir à son père aurait dû engager Clémentine à contracter sans chagrin l'hymen qu'il lui proposait. Il fallait donc que quelques motifs secrets troubla la tranquillité de son âme. C'est ce que nous allons apprendre sans doute dans le chapitre suivant. Chapitre 3. Clémentine. Non loin du château du baron de Fribourg était une petite chaumière entourée d'un joli jardin et située sur une colline d'où l'on découvrait les riches domaines du père de Clémentine. C'est dans ce modeste asile que demeurait la nourrice de la fille du baron. Elle lui avait toujours témoigné la tendresse d'une mère et lui en avait prodigué tous les soins. De son côté, Clémentine chérissait la bonne Germaine et ne passa pas un jour sans aller la visiter. Dans une belle soirée du printemps, Clémentine se mit en route pour aller à la chaumière. Le temps n'avait jamais été si beau, un air doux et pur enivrait les sangs, et le barre-soleil à son déclin semblait ne terminer qu'à regret le jour qu'il avait fait éclore. Clémentine, entraînée par un penchant irrésistible, s'enfonça dans le bois qu'il lui fallait traverser pour arriver à la chaumière de Germaine. Bientôt, se sentant fatiguée, elle s'assit au pied d'un arbre et se laissa aller aux douces réflexions que lui inspirait le silence du lieu où elle se trouvait. Elle était assise depuis quelque temps, lorsqu'un coup de fusil, tiré assez près d'elle, la fit sortir de sa rêverie. Elle se retourne vivement et aperçoit un jeune chasseur. Le jeune homme, de son côté, resta interdit à la vue de Clémentine, et au lieu d'aller s'excuser de la peur qu'il lui a faite, ne s'occupe qu'à contempler l'objet charmant qu'il a devant les yeux. Clémentine fut la première à s'apercevoir de la singularité de leur situation. Elle se leva et allait s'éloigner, lorsque le jeune homme, courant à elle, la retint doucement par le bras. « Et quoi, mademoiselle, vous aurais-je fait peur ?»« Non, ce n'est pas vous, monsieur, c'est votre fusil. » Daignerez-vous recevoir mes excuses? Je ne vous avais pas aperçu, et certes, si je vous eusse vu plus tôt, il n'aurait plus été possible de songer à la chasse. Mais je serais fâché, monsieur, de troubler vos plaisirs. Oh, mademoiselle, mais je donnerais volontiers tous les autres pour que celui que j'éprouve en ce moment... Clémentine rougit. Le jeune homme se tut. Et ils recommencèrent à rester immobiles l'un devant l'autre. Cependant, la nuit approchait. Clémentine fit encore quelques pas. Oh, « Vous vous éloignez, mademoiselle ?»« Oui, monsieur, la nuit vient, et il est temps que je retourne au château. »« Mademoiselle habite le château de Fribourg. Oui, monsieur. Oh, si mademoiselle voulait me permettre de la reconduire. Oh, cela est inutile, monsieur. Je connais fort bien les chemins. Et en disant ces mots, Clémentine s'échappa avec légèreté, laissant le jeune homme la suivre des yeux jusqu'à la lisière du bois. Clémentine rentra tout essoufflée au château. C'était la première fois qu'elle passait une journée entière sans visiter sa bonne nourrice. Elle oublia toute autre chose pour ne penser qu'à la rencontre qu'elle venait de faire. En vain, elle voulut chasser de son esprit l'idée qui l'occupait. L'image du jeune chasseur se représentait sans cesse à sa pensée et remplissait son âme d'un trouble inconnu. Le lendemain, Clémentine se rendit à la même heure que la veille à la chaumière de Germaine. Cependant, malgré le secret désir qu'elle avait de rencontrer son inconnu, elle ne s'enfonça pas dans le bois et alla droit chez sa nourrice. La bonne femme, après l'avoir grondée de n'être pas venue le jour précédent, la fit asseoir et l'engagea à goûter avec elle du lait et des fruits. Cependant, Clémentine n'était pas dans son état ordinaire. Une secrète inquiétude, un sentiment nouveau l'agitait. Sa bonne nourrice, s'apercevant du changement de ses manières, lui demanda quelle pouvait en être la cause. Et Clémentine, qui n'avait rien de caché pour elle, lui fit part de sa rencontre de la veille et du sujet qui l'occupait. Chose qu'elle n'aurait jamais osé raconter à son père. Tant il est vrai que la douceur et la familiarité entraînent à la confiance, tandis que le respect que l'on porte à ses parents est souvent la cause de la réserve que l'on garde avec eux. Germaine, qui ne vit dans cette rencontre qu'une chose toute naturelle, sans en prévoir les conséquences, s'étonna de ce que cela pouvait tant agiter Clémentine. Elles étaient occupées à parler de ce sujet lorsqu'on frappa à la porte. Un battement de cœur avertit Clémentine que c'était pour elle, effectivement. Et Germaine ouvrit et le jeune homme du bois entra dans la chaumière. Il sourit en voyant Clémentine, qui devint rouge et tremblante. La bonne Germaine, étonnée, restait la bouche béante à les regarder tous deux, tenant encore la porte entrouverte et ne sachant si elle devait se taire ou parler. Un léger prétexte fut le sujet de la visite du jeune homme. Il dit à Germaine que, la chasse l'ayant égaré sur la fin de la journée, il se trouvait dans un grand embarras lorsqu'il avait aperçu la chaumière. Il la pria de vouloir bien lui procurer un peu de lait et des fruits, n'ayant, disait-il, rien pris depuis le matin. Ensuite, se tournant vers Clémentine, il la salua timidement et lui dit qu'il s'estimait heureux de ce que le hasard lui procurait le plaisir de la rencontrer une seconde fois. Clémentine sourit à son tour car un secret pressentiment semblait lui faire deviner que ce n'était pas le hasard qui avait conduit là le jeune chasseur. Quant à Germaine, elle comprit que c'était celui que sa demoiselle, c'est ainsi qu'elle appelait Clémentine, avait rencontré la veille, et elle dit au jeune homme qu'il ne pouvait arriver plus à propos, et que Clémentine parlait de lui au moment où il avait frappé. Le jeune homme regarda tendrement la jeune personne. Clémentine rougit et Germaine resta encore tout étonnée à les considérer. Cependant, peu à peu, la contrainte se dissipa. La confiance s'établit et le jeune homme, qui était bien aise de n'être plus inconnu à Clémentine, apprit à ses dames qu'il était français, qui se nommait d'Ormeville, qu'il avait perdu de bonne heure ses parents et que n'ayant que peu de fortune, il était entré au service qu'après avoir combattu quelque temps dans les troupes françaises, et il avait eu une affaire d'honneur avec un de ses camarades. Il s'était battu et avait tué son adversaire. La famille de celui-ci était riche, puissante. D'Ormeville était sans fortune et sans protection. Il s'était vu forcé de fuir pour éviter la mort, et avait passé en Allemagne, dans le dessein d'entrer au service de l'empereur. C'est dans ce voyage qu'il s'était arrêté quelque temps dans un village situé près du château du baron, et c'était en prenant le plaisir de la chasse qu'il avait rencontré la charmante Clémentine. La fille du baron lui demanda avec intérêt s'il était maintenant en sûreté. Dormeville lui répondit que depuis qu'il était en Allemagne, il ne craignait plus rien. Et il ajouta que son plus grand désir était maintenant de séjourner longtemps dans les lieux qu'elle habitait. C'est ainsi que cette rencontre inattendue devint pour Clémentine la source de tant de maux. Dormeville obtint d'abord avec difficulté la permission de reconduire Clémentine une partie du chemin. À la vérité, Germaine était toujours avec eux, mais la présence d'un tiers suffit-elle pour empêcher l'amour de naître? Clémentine ne manquait pas de se rendre tous les soirs à la chaumière, et de son côté, Dormeville était aussi exact. Il trouvait toujours quelque prétexte pour y être admis. La bonne Germaine ne voyait aucun mal à ce que les deux jeunes gens, si aimables, fussent souvent ensemble. D'ailleurs, la douceur et les manières prévenantes de Dormeville lui avaient gagné son amitié et personne, à ce qu'elle disait, n'était mieux assorti avec sa demoiselle. Nos jeunes gens furent bientôt d'intelligence. Le langage des yeux n'était plus suffisant pour eux et un jour, pendant que Germaine était au jardin, Dormeville se jeta aux pieds de Clémentine en lui faisant l'aveu de son amour. Qu'aurait-elle pu répondre qu'il eût déjà deviné? Ils se jurèrent mutuellement d'être l'un à l'autre et de ne jamais cesser de s'adorer. Cependant, le destin, qui n'est pas toujours d'accord avec nos désirs, semblait vouloir traverser ceux des deux amants. Clémentine avoua à Dormeville que son père n'aimait pas les Français et qu'il consentirait difficilement à leur union. Dormeville lui fit entendre qu'il allait entrer au service d'Allemagne et que cette circonstance pourrait peut-être engager son père à lui être plus favorable. Clémentine le crut, oh, qu'on croit si facilement ce qu'on désire. Cependant, le temps s'écoulait et Dormeville, qui aurait déjà dû être alarmé, ne pouvait se résoudre à se séparer de Clémentine. Tous les soirs, assis autour d'une table, ayant près d'eux la bonne Germaine, qui écoutait avec joie leur discours, nos deux amants jouissaient du plaisir si doux que l'on goûte auprès de l'objet aimé et revenaient ordinairement tous les trois jusqu'à la porte du parc du château où Clémentine rentrait en promettant de revenir le lendemain. Un jour pourtant, Germaine, se sentant malade, ne put accompagner Clémentine à son retour. Il était tard, on avait oublié en parlant d'amour que le temps s'écoulait, et Clémentine ne pouvait s'en aller seule. Il fallut bien qu'elle acceptât le bras de Dormeville. La soirée était superbe et rappelait à nos deux jeunes amants le premier jour de leur rencontre. En passant près du bois, ils s'arrêtèrent. Mille sensations délicieuses s'emparèrent de leur cœur. Dormeville pressa son amante dans ses bras. Clémentine s'abandonna à ses caresses et ils oublièrent tous deux le monde et ses convenances pour ne plus songer qu'à l'amour. Comme malheureusement le plaisir le plus grand est celui qui dure le moins, l'illusion se dissipa, les sens se calmèrent et Clémentine vit avec effroi l'abîme dans lequel elle était tombée. Cependant, Dormeville était près d'elle. Il calma sa douleur, sécha ses larmes. Cela est facile à un amant. Clémentine sourit. Quand l'amour reste après la jouissance, on est encore heureux. Il fallut pourtant se séparer, c'était le plus cruel. Enfin, Clémentine rentra par la petite porte du parc. Mais comme elle tremblait en parcourant les appartements du château, avec quel embarras elle aborda l'auteur de ses jours. Ah, si le baron n'eût eu que 20 ans, mais nos parents ne sont plus, comme nous, dans l'âge des passions. Voilà pourquoi il est facile de leur cacher celles qui nous agitent. Cependant, plus nos amants faisaient l'amour, moins Dorméville songeait à s'éloigner, lorsqu'un événement inattendu, mais fort naturel, vint le rappeler à son devoir. Clémentine s'aperçut qu'elle était enceinte. Cette nouvelle qui comblait Dorméville de joie lui fit pourtant sentir qu'il était temps de prendre un parti. On convint que Dorméville partirait sur le champ pour l'armée. La guerre venait de se déclarer entre la Russie et l'Autriche. C'était le moment de se distinguer. Clémentine devait écrire à Dorméville tout ce qui se passerait au château. On espérait qu'il reviendrait avant la naissance de l'enfant que Clémentine portait dans son sein. Et à son retour, les deux amants devaient aller se jeter aux pieds du baron, lui avouer leur faute et obtenir leur pardon. Ce plan, une fois arrêté, on ne songea plus qu'à l'exécution. Dorméville s'éloigna de son amante, non sans répandre au bien des larmes, et Clémentine sentit ses forces l'abandonner en voyant partir celui qu'elle regardait comme son époux. Chapitre 4. L'homme comme il y en a peu. Ce fut 2 mois après le départ de Dorméville que le baron de Fribourg annonça à sa fille qu'elle devait regarder le colonel Fromberg comme son futur époux. Que pouvait dire Clémentine? Elle craignait trop son père pour oser lui avouer sa faute. Nous avons vu que tout ce qu'elle put obtenir fut un délai de 3 mois. Elle alla pleurer dans le sein de sa bonne nourrice, à laquelle elle avait depuis longtemps confié tous ses chagrins. La vieille Germaine ne put que l'engager à prendre courage. Mais pour comble de maux, depuis près d'un mois, Clémentine ne recevait plus de nouvelles de Dorméville. Que pouvait-il lui être arrivé? Était-il prisonnier? Avait-il été tué sur le champ de bataille? Toutes ces idées étaient affreuses et ne faisaient que rendre plus terrible sa situation. Un soir, que le comte Hermann et son fils étaient chez le baron, Müller entra pour donner à son colonel des nouvelles de la dernière affaire. « Eh bien, Müller, dit le colonel, qu'y a-t-il de nouveau ?»« Oh, mon colonel, les ennemis ont joliment été frottés. »« En es-tu certain ?»« Oh oui, mon colonel, car c'est le vieux Franck qui arrive de l'armée et qui me l'a raconté. » Triple cartouche, on dit que l'affaire a été chaude. Oh, l'ennemi s'est vaillamment défendu, nous avoir fait du ravage. De toute notre première compagnie du 36e de Hussard, pas un n'est échappé. Que dites-vous ? S'écria Clémentine. Quoi, pas même les officiers ? Oh mon Dieu, pas un. Tout est resté sur place. Clémentine n'en entendit pas davantage. Elle s'évanouit. On courut la secourir, tandis que Müller, enflammé par le récit de la bataille, ne s'apercevait pas de l'événement auquel il avait donné lieu. On emporta Clémentine dans sa chambre, où elle ne reprit ses sens que pour se livrer à la plus vive douleur. C'était dans la première compagnie du 36e de Hussards que servait Dorméville. Et la nouvelle qu'elle venait d'apprendre, jointe au silence qu'il gardait depuis longtemps, lui persuada aisément qu'il avait cessé de vivre. Et effectivement, depuis ce temps, aucune nouvelle de Dorméville ne parvint plus à Clémentine, qui passait ses journées dans les larmes en songeant à celui qu'elle avait perdu. Cependant, le temps s'écoulait. Les 3 mois accordés pour délai à Clémentine étaient sur le point d'expirer. Elle sentait aussi qu'elle serait bientôt mère, et chaque instant ajoutait à l'embarras de sa position. Il fallait prendre un parti. Clémentine se détermina à tenter le seul moyen qui lui restait pour goûter, non pas le bonheur, elle y avait renoncé depuis la mort de celui qu'elle adorait, mais au moins la tranquillité et le repos dont elle était privée depuis longtemps. Le caractère du colonel Fromberg, que Clémentine avait su apprécier, lui avait inspiré l'idée de lui avouer sa faute et de se confier à sa générosité. Un jour, peu de temps avant le temps fixé pour leur mariage, Clémentine pria le colonel Frambert de lui accorder un moment d'entretien. Le colonel y consentit volontiers. Ils se rendirent dans un endroit écarté du parc, et là, Clémentine lui confia son amour et ses malheurs. Le colonel demeura frappé d'étonnement lorsque Clémentine lui apprit qu'elle serait bientôt mère. « Et quoi, madame ? » lui dit-il. « Vous que j'aurais cru la plus innocente des femmes ?» Il s'arrêta. Clémentine devint rouge de honte. « Oh, pardon, madame, ajouta-t-il, je ne connais pas l'amour, et j'ignore les fautes qu'il fait faire. Mais parlez, ordonnez, qu'exigez-vous de moi ? Votre confiance mérite tout mon attachement et mon respect. Elle est une preuve de votre estime pour moi, et je vous prouverai que si le colonel Frambert ne peut être votre amant, il mérite au moins votre amitié. » Clémentine, enhardie par ce discours, lui dit qu'elle se confiait à sa générosité et que c'était à lui d'ordonner de son sort. « Eh bien, madame, puisqu'il en est ainsi, si vous y consentez, nous ne changerons rien à nos projets. Si celui qui possédait votre amour existait encore, je me garderais bien de me proposer pour votre époux. Cela serait vouloir vous condamner à des regrets éternels, mais il n'est plus, et vous êtes mère. Votre enfant aura besoin d'un père. Je lui en tiendrai lieu, et j'aurai toujours pour lui la même tendresse que s'il était mon véritable fils. » « Quoi, colonel, vous consentiriez à m'épouser ? Mais oubliez-vous que les préjugés, l'honneur même, vous défendent ce mariage ?»«
Les préjugés, je ne les connais pas. Et mon honneur à moi, madame, est de secourir la fortune et de servir de père à l'orphelin. C'est à ce titre que je veux être votre époux. Et si par la suite on blâme ma conduite, on ne pourra pas au moins m'ôter la satisfaction d'avoir agi en galant homme. »
Oh, colonel, quel serait l'être assez hardi pour censurer la conduite d'un homme qui ne se plaît qu'à faire le bien?
D'ailleurs, madame, puisque les convenances l'exigent, je vous réponds que le plus profond secret enveloppera cette aventure.
C'est ainsi que se termina cet entretien. Et 8 jours après, Clémentine devint l'épouse du colonel. Si elle n'avait pas connu Dorméville, elle aurait trouvé le bonheur dans cet hymen. Mais le souvenir de celui qu'elle adorait venait sans cesse troubler son repos, et elle retombait dans une triste mélancolie qu'elle cherchait vainement à cacher à son époux. 1 mois après ce mariage, le comte Hermann mourut. Le colonel Frauberg donna les larmes d'un tendre fils à la mémoire de son père et passa son temps renfermé avec sa femme et ne voyant que Müller. C'est à cette époque que la comtesse mit au monde un enfant qui fut baptisé secrètement sous le nom de Henri d'Orméville, mais que le colonel éleva et fit passer pour son fils. Le vieux baron de Fribourg, qui était alors au château, n'eut pas connaissance de cet événement, et il mourut peu de temps après le mariage de sa fille sans avoir deviné ce mystère. Müller fut le seul qui pénétra la vérité, mais il garda pour lui ses réflexions sans dire à son colonel ce qu'il pensait. Le jeune Henri devint l'idole de sa mère. Ses traits lui retraçaient ceux de l'homme qu'elle avait tant aimé. Si Clémentine avait eu le bonheur d'élever son fils, il est probable que notre jeune héros aurait hérité de ses qualités douces et tendres. Mais elle mourut lorsqu'il n'avait encore que 4 ans, emportant avec elle les regrets et les larmes de tous ceux qu'il avait connus. Le colonel Frambert, au désespoir de la mort de sa femme, fut obligé, pour se distraire de son chagrin, de s'absenter pour quelque temps du château. Il résolut de retourner à l'armée. Mais comme le petit Henri lui était bien cher, il voulut laisser auprès de lui quelqu'un qui pût veiller assidûment sur sa jeunesse et lui inculquer de bonne heure les principes de la vertu.
et je vis Müller que le colonel choisit pour remplir cet office. Il connaissait sa loyauté, sa franchise, et certain qu'il ne quitterait pas un instant son fils, c'est ainsi qu'il nommait Henri, il ne balança pas en faire son précepteur. Müller aurait bien autant aimé suivre son colonel à l'armée que de rester tranquillement au château de Fromberg. Mais comme les désirs de son supérieur étaient des ordres pour lui, il jura de remplir fidèlement ses intentions. Le colonel partit donc du château, y laissant commander Müller en son absence, et lui recommandant de faire de Henri un homme brave et vertueux.
Chapitre 5. Éducation de Henri. Voyons comment Müller se tira de l'emploi qui lui était confié et quelle fut l'éducation du fils de Clémentine. Müller commença par établir son logement à côté de celui de son élève. Et dès que le jour se levait, Müller entrait dans la chambre de Henri, le tirait brusquement de son lit, l'habillait et l'emmenait avec lui faire un tour de promenade dans la campagne, présumant bien que cet exercice rendrait son élève plus fort et plus robuste. Ensuite, il rentrait, on déjeunait toujours avec quelques viandes froides et du vin. Müller ne pensait que cela valait mieux pour le corps que tous les thés et les cafés possibles. Peut-être n'avait-il pas tort, mais je crois qu'au fond, il n'était pas fâché de profiter lui-même de ce déjeuner-là. Après le déjeuner, Müller confiait pour 2 heures seulement son élève à un ancien précepteur qui habitait le château et qui était chargé de lui enseigner l'écriture et les langues. Müller recommandait toujours à Henri de ne pas trop se casser la tête aux études des sciences, parce qu'il pensait qu'il était plus nécessaire de savoir bien tirer l'épée que de parler latin. Et le jeune homme, fort de l'approbation de Müller, jetait quelquefois les livres au nez de M. Bettermann. C'était le nom du maître, disant que cela l'ennuyait et qu'il aimait mieux apprendre à se battre. M. Bettermann criait, mais Müller était enchanté et M. Bettermann avait toujours tort. Lorsque cette leçon était finie, Müller s'emparait de Henri, l'emmenait dans la cour, le plaçait sur un cheval et faisait galoper l'animal pendant près d'une heure autour de l'entrée du château. Aussi, à l'âge de 10 ans, le petit Henri connaissait mieux les chevaux que son rudiment. Après ce petit délassement, on passait à un autre plus important. Il fallait faire l'exercice et apprendre à manier le sabre avec honneur. C'est dans cet emploi que Müller se distinguait. Et lorsqu'il était satisfait de son élève, il le récompensait en le dispensant pour le lendemain de toute leçon avec M. Bettermann. Après l'escrime, ces messieurs se mettaient à table. Müller avait pour principe d'y rester aussi longtemps que possible. Et c'était la seule chose dans laquelle il s'accordait avec M. Bettermann, qui partageait l'honneur de dîner avec ces messieurs, parce que Müller était bien aise de trouver quelqu'un qui pût lui tenir tête à table, en attendant que son élève fût assez grand pour se griser avec lui. C'est ordinairement, après le dîner, ces messieurs n'étaient plus en état de rien faire. M. Bettermann, en voulant rivaliser avec Müller, finissait toujours par se laisser aller sous la table, et Müller, ne trouvant plus personne à qui parler, s'endormait alors au coin de la cheminée en fumant sa pipe et en chantonnant un petit refrain militaire. Et c'était pendant le sommeil de ses précepteurs que Henri faisait des siennes. N'ayant plus personne pour le surveiller, il allait courir dans le château, dans les jardins, s'arrêtait à l'écurie, détachait les chevaux, montait dessus sans selle et ravageait le jardin en galopant à tort et à travers dans les allées de gazon et dans les planches d'épinards, malgré les cris du jardinier qui se désespérait de voir que ses légumes ne viendraient jamais à maturité. Un jour, cependant, ennuyé de voir que M. Henri détruisait tous les soirs son travail du matin,
Le jardinier résolut de se venger. Après avoir bien mûri son plan, il acheta quelques pétards qu'il plaça au pied d'un arbre dans la belle allée que M. Henri se baisait à dévaster le plus souvent. Et faisant une traînée de poudre jusqu'à un buisson où il se cacha, il attendit tranquillement l'ennemi, prêt à mettre le feu au moment où il passerait, bien certain qu'au bruit de l'explosion, le cheval jouerait quelques tours à son cavalier. L'événement justifia toutes les espérances du jardinier. Dès que Henri vit M. Wetterman sous la table et Muller endormi, il descendit lestement dans la cour, courut à l'écurie, en détacha le meilleur cheval et monta dessus, se promettant bien ce jour-là de ravager les plates-bandes du jardin tout autant que les jours précédents. Il galope vers la fatale allée, mais au malheur inattendu. L'explosion a lieu. Le cheval se cabre et jette son cavalier, qui était lui-même trop effrayé de ce bruit, pour pouvoir se tenir ferme sur sa monture, et qui va tomber à 10 pas de là. Tous les gens du château accourent au cri de leur jeune maître. Le jardinier est un des premiers à se présenter. On court réveiller Mullerm. Celui-ci, effrayé des cris qui frappent ses oreilles, renverse brusquement la table sur M. Wetterman en voulant descendre plus vite au secours de Henri. Mais notre jeune homme avait eu plus de peur que de mal. À quelques contusions près, il ne lui était rien arrivé de fâcheux. Cependant, interrogé sur la cause de sa chute, il apprend à Mullerm ce qui lui est arrivé. Mullerm, furieux de ce qu'on ait osé tendre un piège à son élève, jure que s'il vient à découvrir le drôle qui a fait ce coup-là, il lui ôtera l'envie de recommencer. Tous les domestiques protestent de leur innocence et l'on rentre au château en s'entretenant de cet événement. Mais une autre surprise y était préparée. Du bas de l'escalier, Mullerm entend des cris confus partir de la pièce où ils ont dîné. Ils montent 4 à 4 et trouvent M. Wetterman se débattant sous la table entre les bouteilles et les plats et faisant tous ses efforts pour retirer sa tête d'un vase à ponche. Il en va enfin à bout avec le secours de Mullerm, en consentant toutefois à laisser sa perruque dans l'eau de vie brûlée. Enfin, le calme étant un peu rétabli au château, chacun se sépara pour aller se coucher. Henri, corrigé par sa chute de cheval, fut quelque temps un peu plus paisible et se contentait de galoper dans la cour. Le jardinier se félicitait du succès de son stratagème et voyait avec ravissement ses légumes croître en liberté. Cependant, l'effet de la chute se dissipa peu à peu et Henri commença à s'ennuyer du cercle étroit de son manège. Enfin, ses confusions étant guéries, il reprit le chemin du jardin et recommença à faire damner au diable le pauvre jardinier. Mullerm, qui n'avait pas oublié le tour des pétards et brûlait du désir d'en connaître l'auteur, ne tarda pas à concevoir de violents soupçons sur le jardinier, dont les plaintes réitérées faisait assez voir le dépit. Il résolut donc d'épier notre homme et de tâcher d'acquérir la certitude de ce qu'il soupçonnait. Et l'occasion ne tarda pas à se présenter. Le jardinier, impatienté de voir que ses remontrances étaient sans effet, résolut de renouveler son expérience pour dégoûter tout à fait le jeune Henri de ses courses à cheval. Et pour que cette fois l'envie ne lui prît pas de recommencer, il pensa qu'il ferait pas mal de tripler la dose afin que la détonation fût plus efficace. Mais comment faire? Le peu de poudre qu'il avait pu se procurer dans le château avait été brûlé à la première explosion. Après y avoir bien réfléchi, il pensa que Mullerm devait en avoir chez lui une quantité plus que suffisante pour mettre son projet à exécution, et résolut de profiter d'un moment où il s'absenterait pour prendre ce qu'il lui en fallait. Effectivement, Müller ne tarda pas à descendre. Il aperçut notre homme rôdant autour du château. Il feignit de s'éloigner sans se douter de rien. Mais après avoir fait quelques pas, il revint doucement derrière le jardinier. Ce dernier entra dans la chambre, ne soupçonnant pas qu'il était suivi. Il prit la poudre qu'il crut nécessaire et regagna bien vite le jardin en riant dans sa barbe du nouveau tour qu'il allait jouer à l'élève de notre hussard. Mais Müller n'avait tout vu. Ayant acquis la preuve convaincante du complot du jardinier, se promit d'en tirer une vengeance éclatante. Après avoir bien médité son plan, il laissa le jardinier préparer tout pour rendre son explosion plus bruyante et attendit avec impatience l'instant fixé pour l'exécution de son projet. Il arriva enfin ce moment si désiré par Müller et par le jardinier. Ce dernier, après avoir bien préparé son artifice, va se tapir dans le buisson d'où il doit mettre le feu à la mèche. Il n'attend pas longtemps, le galop d'un cheval se fait entendre. Il approche. Aussitôt, il met le feu à la tonnée de poudre. Mais oh, surprise, oh désespoir! Il saute lui-même loin de son buisson, enlevé par la force de la poudre, et retombe sur le gazon en poussant des cris aigus. On se doute bien que c'était Müller qui avait coupé la traînée de poudre par une autre traînée qui aboutissait au buisson où le jardinier était caché et qu'il avait garni de poudre de manière à lui ôter l'envie de faire sauter les autres. Quant au cheval qui avait galopé, il n'était pas monté. Müller avait eu soin de retenir son élève en l'avertissant du piège qu'on lui tendait. « Ah, coquin, c'est donc toi qui veux te faire sauter ton jeune maître, parce qu'il lui plaît de labourer les épinards avec les pieds de son cheval. Triple canonnade, je ne sais à quoi il a tenu que je ne t'ai fait sauter aussi haut que le clocher du village. Mais, monsieur Müller, c'était pour le bien de monsieur le Flambert, ce que j'en faisions. Que dira notre maître quand il trouvera son jardin dans l'état où ce qu'il est? Apprends, Maroufle, que mon colonel aime mieux son fils que ses légumes, et que tant qu'il plaira à ton élève de mettre le château sans dessus-dessous, c'est pas à toi qu'il appartient d'y trouver à herdir. » Le jardinier se tut et regagna à clopin-clopant sa maisonnette en envoyant au diable les jeunes gens, les chevaux et les hussards. Quant à Müller, fier de la réussite de son projet, il alla célébrer sa victoire, le verre à la main. Et cette fois, M. Betterman passa la nuit sous la table.